Coucou tout le monde, un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. Donc je suis Amandine Philippe et vous pouvez retrouver toutes mes activités sur www.amandine-ataraxie.com. Voilà, je fais jamais la même intro, je suis pas calée. je suis pas une grande podcasteuse encore, mais j'avoue que flemme, j'ai la flemme d'avoir quelque chose à chaque fois de super carré, super pareil et tout. Donc je le fais à chaque fois un petit peu selon mon humeur et mon envie. Voilà. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Et déjà, je voulais vous remercier infiniment pour l'accueil que vous avez fait à mon dernier podcast sur le fait, le podcast « Pourquoi j'arrête la pole dance pourquoi, voilà, je vous explique ma transition de vie. Alors, j'arrête pas la pole dance en pratique personnelle, je l'arrête en enseignement. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas précisé. Mais oui, je vais continuer de poler pour moi, pour le plaisir. Et surtout, ne plus chercher... je suis plus dans la recherche à me surpasser physiquement, qui est quelque chose qui m'avait donné beaucoup de confiance en moi. Mais aujourd'hui, j'ai dépassé ça. Et donc, voilà, bref, je voulais vous remercier pour tous vos retours, tous vos accueils. Et du coup, vous m'avez demandé d'autres podcasts. Donc, le voici, le voilà, le tout nouveau podcast. Donc, le sujet qui m'a été demandé aujourd'hui, c'est de parler de ma méningite. Comment j'ai traversé ça, comment j'ai été soutenue, etc. Ouh, c'est un gros sujet pour moi, même si je l'ai complètement digéré, accepté. Que cette méningite, je la bénis chaque jour. Pour moi, j'ai beaucoup de gratitude envers la vie qu'elle m'a envoyé cette méningite foudroyante dans la gueule. Pourquoi ? Parce que ça m'a fait énormément évoluer et ça m'a fait énormément comprendre de choses. Même si je n'ai pas réagi à tout de suite. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un podcast que je vais vous faire comme si vraiment je me confiais à ma meilleure amie. Puisque aujourd'hui, je vais vous révéler des choses que j'ai vraiment pu révéler que dans mon cercle très intime. Je suis une personne qui... Voilà, je suis pas du genre à m'exprimer. Enfin, oui, je m'exprime. Vous m'avez vu sur... Il y en a qui m'ont vu sur des vidéos, sur les flous de pète un câble, etc. Mais lorsqu'il s'agit de sentiments, etc., c'est vrai que c'était, surtout à l'époque, un petit peu ma bête noire. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Mais je suis pas du genre à me confier à tout le monde. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vraiment vous partager des moments de ma vie qui sont assez privés et intimes. Sachez qu'aujourd'hui, et à l'heure d'aujourd'hui, et même les années d'avant, je n'ai aucune animosité envers qui que ce soit. J'ai pardonné tout le monde et tout va bien. Voilà. Donc, c'est reparti. On fait un petit rembobinement de vie. En 2011, méningite, mars 2011, fin mars, attendez, non, mi-mars, après mon anniversaire. Ah là 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 là, 2011, je reviens en 2011, je me sépare, je ne sais même plus en quelle année, je suis un peu perdue dans les dates, je suis séparée de mon ex-conjoint, qui est resté mon ami. Mais lorsqu'on se sépare, nous faisons la... Oui, je pense qu'il fallait que je vive cette expérience. Hein. Mais en tout cas, on reste en coloc. Ouais, je sais. Je sais bien. C'est quelque chose qui a paru très bizarre pour beaucoup de monde. Pour moi aussi d'ailleurs. Il faut savoir que je suis quelqu'un de... J'ai un très grand cœur. Je suis très sensible. J'ai du mal à en vouloir aux personnes. Alors j'en veux évidemment sur le coup, mais je sais pardonner. Voilà, c'est quelque chose que vraiment j'ai en moi. Je sais pardonner, je sais écouter, je sais comprendre. Tout comme dans ma relation avec mon ex... Voilà, il n'était pas forcément toujours très respectueux avec moi et j'essayais toujours de comprendre pourquoi est-ce qu'il agissait comme ça. Voilà, le problème, c'est que j'ai pardonné, et puis jusqu'au jour où, bon, ben, vraiment, un jour, j'ai pété un câble et j'ai arrêté cette relation. Mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et avec qui je suis restée donc proche. On avait tous nos amis en commun, etc. Mes amis étaient devenus ses amis étaient devenus mes amis. Donc voilà, tout ça. Et ça s'est très bien passé, le fait de passer du côté amitié. Voilà, mais il est clair que quand on veut s'épanouir par la suite, être en coloc avec son ex, bon, c'est pas la meilleure des choses à faire. Donc s'il y en a qui m'écoutent et qui sont dans cette situation, barrez-vous vite fait, pour le bien de chacun, hein, d'ailleurs. Donc voilà, j'ai du mal à dire non. De base, hein, je le mets dehors quand on se sépare, d'ailleurs. Je le mets dehors puisque je lui ai fait ses affaires, que j'ai mis devant la porte et je lui demande de partir, chose qu'il refuse. Et à partir de là, on fait chambre à part puisqu'on a la chance d'avoir deux chambres et on fait un peu chacun notre vie, enfin, on fait chacun notre vie, mais on continue de fréquenter les mêmes personnes, de faire des soirées ensemble, même si j'essaye un petit peu quand même de prendre du recul, mine de rien, par rapport à tout ça. Soit, ça c'est pour introduire déjà ce qui se passe à ce moment-là. Et puis, je souhaite déménager. Je souhaite déménager. À l'époque, on habite à Cergy. Et je fais énormément d'allers-retours à Paris, déjà depuis mes études. Hein. Donc Cergy, c'est quand même 45 minutes pour arriver dans Paris. Et puis après, si on doit reprendre des métros, etc. Bon, en général, on est là pour 3 heures de transport par jour. Voilà, 1 heure et demie par trajet. Si tout va bien, toutefois, ce qui est arrivé à l'époque quand même assez rarement. Les joies des transports parisiens que je suis tellement heureuse de ne plus vivre aujourd'hui. Enfin bref. Et donc je souhaite me rapprocher de Paris et donc on n'est plus dans cette relation et je cherche un appartement. Et là, mon ex bah, me dit, oui, tu comprends, pour moi c'est difficile, je ne peux pas retourner chez mes parents. Ah voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. Bon, et Amandine, gentille comme tout, lui dit, bon, écoute, on part ensemble sur Paris, mais par contre, c'est une transition, c'est quelques mois. Comment vous dire que cette transition a duré 5 ans? 5 ans, les gars, 5 ans. Wouh! Ah, mais moi, ça fait quelque chose de le dire. Bref. Donc, si vous voulez, on avait trouvé un appartement au Lila. Donc, transition de Cergy-Pontoise au Lila pour se rapprocher de Paris. Voilà, pour éviter de se taper trop de transport. Donc, mission à faire tout ça. Faut savoir qu'au fond de moi, cette colocation, j'en ai pas envie. Voilà. Même si j'apprécie mon ex maintenant comme un ami, que notre relation, voilà, on s'entend bien et tout, il n'y a pas de problème. Mais je n'ai pas envie d'aller vivre avec mon ex. Moi, j'ai envie de refaire ma vie. Et ben moi, je dis rien. Voilà, je dis rien parce que je suis quelqu'un qui pense beaucoup aux autres, qui voilà, qui a beaucoup pensé aux autres avant de penser à moi. Hein, et voilà. On fait, donc il y a mon anniversaire qui tombe le 9 mars et en date du 12 mars, si je ne dis pas de bêtises, nous organisons une grosse soirée dans cet appartement à Cergy pour mon anniversaire et pour faire une décrémaillère parce qu'on va quitter le logement. Donc là, énormément de personnes viennent, c'est la grosse teuf, on rigole, c'est génial, tout va bien, etc., etc. Donc moi, j'avais déjà commencé des cartons à l'époque, je travaillais en tant que styliste encore à ce moment-là, et puis je travaillais aussi en parallèle pour Monster Energy, donc je me déplaçais aussi beaucoup sur beaucoup d'événements, je faisais beaucoup de routes par jour, enfin voilà, j'étais très fatiguée parce que je faisais énormément de choses. Et puis voilà, tous ces déplacements en voiture, c'était fatigant, les bouchons, etc. Bon, voilà. Donc on fait cette décrémaillère avec déjà quelques cartons dans les couloirs, tout ça, tout se passe bien, c'est génial. Le lendemain, petit brin de ménage, tout ça, tout ça. Et puis, dans la nuit du dimanche à lundi, la nuit du dimanche au lundi, je commence à me sentir pas bien. Mais vraiment pas bien. Il faut savoir que je ne suis pas quelqu'un qui va voir des médecins pour un oui, pour un non. Hein. Moi, j'attends vraiment le dernier moment, si vraiment il faut que j'aille chez le médecin, mais sinon, je vais très rarement chez le médecin. Donc là, je me sens quand même pas bien du tout. Vraiment pas bien. Et le lundi matin, j'avais rendez-vous pour me faire tatouer avec mon ami Cyril, Per Siempre Tatou, qui était à Melun. Et aujourd'hui, qui se trouve à Reims, voilà, si jamais. C'est un mec super, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et sa chérie Chloé, elle fait des piercings. Voilà. Donc, je devais aller me faire tatouer. Donc, moi, les moments de tatouage, c'est toujours un grand moment pour moi. Sauf que là, je me sens vraiment pas bien. Donc là, je demande à mon ex-conjoint de contacter Cyril, puisque c'était aussi un ami à lui, et de lui dire que je ne peux pas venir parce que vraiment, je ne me sens pas bien. Donc déjà, moi, pour faire ça, il faut vraiment que ce soit grave. Hein. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas, parce que déjà, annuler un rendez-vous de tatou, annuler en dernière minute, c'est vraiment que ça ne va pas. Je passe toute la journée vraiment très très mal. Comment vous expliquer? Je sens quoi être dans ma tête, c'est horrible. Ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là, c'est atroce. Je suis obligée de rester dans le noir. Je n'arrive pas à dormir. Et en même temps, je sens comme des hallucinations. Voilà, j'ai... Ça va pas, ça va pas. La lumière, je ne peux pas la supporter. Je ne peux pas supporter le bruit d'un interrupteur. Donc imaginez juste le petit clac de l'interrupteur. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une bombe qui explose dans ma tête. Quand je dois me déplacer aux toilettes, je rampe. Et bref, ça va pas quoi. Je n'arrive pas à m'alimenter. Et la seule chose que j'arrive à manger, c'est des chocobons. Allez savoir pourquoi, mais c'est la seule chose qui passe. Sinon, tout le reste, je ne peux pas. Je passe, me semble-t-il, toute cette journée du lundi à souffrir atrocement. Et je demande à mon colocataire d'appeler SOS médecin. Lui n'ayant pas le permis, il ne peut pas m'emmener aux urgences. Et puis je me dis qu'SOS médecin, ça va aller. Je pense qu'SOS médecin arrive le lundi soir, dans la soirée, je ne saurais plus vous dire parce que c'est très difficile pour moi d'avoir une notion de temps de ce moment-là, de ce qui se passe pour moi. J'ai perdu toute notion de temps, voilà, je suis dans le noir, je divague, je ne vais pas très bien, je sens ce mal de tête atroce, 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 atroce. Je ne souhaite vraiment à personne de vivre c'est ça, parce que c'est vraiment horrible. Et notre ami SOS médecin arrive. Il m'ausculte, il me demande mes symptômes, tout ça. Donc je décris que j'ai l'impression que j'ai la tête qui va éclater. Voilà, je dis tout ce qu'il me demande, mais pareil, je me souviens plus exactement de tout ce que je dis. Et là, il me donne un petit cachet en me disant « Vous avez une grippe intestinale ». Je n'ai jamais eu de grippe intestinale. Je ne sais absolument pas ce que fait, quelle sensation on a quand on a une grippe intestinale. Il me donne ce médicament que je vomis aussitôt. Avant ça, j'avais aucunement envie de vomir. Je me sentais très mal, mais je n'avais pas envie de vomir. Je revomis le cachet. Et quand je vomis, je lui dis « je n'ai pas une grippe intestinale ». Et là, il me dit « si, si, vous venez de vomir, etc. » Je dis « oui, mais je n'ai pas vomi avant, jusque-là, en fait. Je n'ai pas du tout vomi. » « Si, si, vous avez une grippe intestinale. » Et donc, il me prescrit des médicaments, dont des ibuprofènes. Ne pouvant absolument pas me déplacer et ne pouvant rien faire, je donne cette ordonnance à mon colocataire en lui disant « est-ce que tu pourras aller me chercher les médicaments ?» Et puis lui, dans son travail, dans tout ce qu'il fait, il ne va pas me chercher les médicaments. Je continue de souffrir. Et là, vous allez dire « oh, le bâtard !» Non. Alors, sur le coup, oui, on aurait pu croire comme ça que oui, il prenait pas soin de moi et que c'était pas cool de pas aller me chercher mes médicaments. Et au final, c'était la bonne chose à faire. Donc, je continue de souffrir. Voilà, je sais que je me lève la nuit, j'essaye d'aller regarder la télé, mais je supporte pas les écrans, la lumière, je supporte rien en fait, c'est horrible. Je suis là, je sens que ça va pas, je dans ma tête, je suis en train de mourir. Et je souffre tellement, je pense que très honnêtement, j'aurais eu une arme à côté de moi. Alors j'aurais pu le faire hein, d'une autre façon évidemment, mais j'aurais eu un flingue à côté de moi, je vous assure, je me serais tiré une balle dans la tête tellement je souffrais. Je continue de souffrir, je continue de souffrir. Et peut-être le mardi, j'appelle les pompiers pour leur dire, écoutez, il faut venir me chercher. Je n'y arrive plus, en fait. Je n'arrive plus du tout. J'arrivais plus à tenir en place. Je ne savais plus comment être bien. Je savais plus. C'était une torture pour moi de me voir ramper pour aller aux toilettes, d'allumer un interrupteur et d'avoir envie de mourir à ce moment-là. Je me dis, le moindre petit bruit, c'était atroce de chez atroce. Je me vois appeler donc les pompiers en leur disant, écoutez, il faut venir me chercher. Je vais pas bien du tout. Donc j'essaye de parler aussi tant bien que mal parce qu'il faut savoir que j'ai du mal à bien m'exprimer et à prononcer les mots. Je crois d'ailleurs qu'à ce moment-là, peut-être que je passe aussi le téléphone à mon colocataire. Et donc là, on émet, lui ou moi, je ne me rappelle plus trop bien, on émet ce fait que SOS Médecin est venu, qui m'ont dit que j'avais une grippe intestinale, etc. Et donc là, tout ce qu'on nous répond, c'est faites le traitement et attendez une semaine. Et on ne veut pas venir me chercher. Là, ça commence à être très dur. Il faut savoir que mes parents venaient aussi de déménager sur Périgueux. Donc, je n'avais plus mes parents à proximité. Ma sœur était revenue. Oui, ma sœur était... Non, attendez. Ma sœur, est-ce qu'elle était encore en Espagne à ce moment-là? Ou elle était sur Paris? Non, elle était sur Paris. Elle était sur Paris. Et donc j'ai ma soeur au téléphone, je lui dis que je souffre atrocement, affreusement, atreusement. Un mélange entre affreux et atroce. Donc que je souffre affreusement. Et donc là, ma soeur appelle le SAMU. Et le SAMU m'appelle. Donc là, on est mercredi dans la matinée, je crois. Donc il faut savoir que je ne suis pas bien depuis la nuit de dimanche à lundi. Ce qui est quand même déjà pas mal, hein, puisque j'ai souffert déjà... pas mal de temps. Le SAMU m'appelle, me demande encore une fois les choses, et là j'arrive à peine à prononcer quelques mots, mais tout ce que je leur dis c'est s'il vous plaît, venez me chercher. Vraiment, s'il vous plaît, venez me chercher. Ils me disent ok, on va arriver dans l'après-midi et tout. Donc là je me dis, oh là là, Amandine, ça je me souviens. J'ai dit, mon Dieu, Amandine, tu pues, ça fait 3 jours que t'es pas lavée. Je vais quand même, voilà, ils vont quand même sûrement m'ausculter à l'hôpital. Je vais quand même essayer d'aller prendre une douche. Donc j'essaye tant bien que mal de me faire un brin de toilette avant qu'ils arrivent. Et puis ils sont arrivés, je pense, dans l'après-midi, fin d'après-midi, je ne sais plus trop. Donc le SAMU arrive, il m'embarque. Donc il voit que vraiment je vais pas bien du tout. Il m'embarque. Oh, la sortie en extérieur, je me rappelle qu'il faisait très beau ce jour-là. La sortie en extérieur, c'était horrible. Quand je me suis retrouvée à la lumière du soleil, oh, j'ai cru que mon corps, ma tête allait exploser tellement c'était affreux. Donc je me couvre comme je peux. Il m'emmène jusqu'à l'hôpital. Là, évidemment, on me laisse attendre dans un couloir avec d'autres personnes à côté, hein, qui attendent. Donc on me met sur un fauteuil roulant parce que j'ai du mal à marcher. Il y a d'autres personnes sur des fauteuils roulants, des brancards autour de moi dans le couloir. J'ai l'impression d'attendre très longtemps avant qu'on vienne me chercher. Sauf que j'ai pareil, j'ai envie de me taper la tête contre les murs, j'ai envie de me flinguer parce que ben, dans un couloir d'hôpital, ça fait beaucoup de bruit, il y a des personnes qui parlent. Et je me rappelle que juste en face de moi, il y a une femme qui est sur son téléphone et vous savez, elle a les touches et elle joue à un jeu et elle a les touches qui font du bruit. Plus le son du téléphone. Et là, je vous assure que je n'ai qu'une envie, c'est d'aller lui prendre son téléphone, mais je n'ai même pas la force de le faire, et de lui éclater le téléphone. Tellement c'est insupportable pour moi. Alors, déjà, c'est des sons sur lesquels je suis très sensible, moi, les sonneries de téléphone, etc. Je déteste ça. Mais là, vraiment, c'est une obsession. Je suis en face de moi. Je pense que je me vois la regarder avec un. Avec des yeux, je vais te sauter à la gorge, je vais t'étrangler, par pitié, arrête. Mais j'ai même pas la force de lui dire, et je n'ose même pas lui dire, c'est ça le pire, je n'ose même pas lui dire, excusez-moi, je vais vraiment pas bien, les bruits de votre téléphone, ça ne va pas, je n'ose même pas, je n'ose même pas et je n'y arrive pas. Bon, on finit par me prendre en charge. Je suis seule à l'hôpital, hein, il n'y a personne avec moi, je suis toute seule. Je crois que je n'ai même pas prévenu mes parents que je me sentais pas bien à ce moment-là. Je sais plus. Je sais plus. Je crois que mes parents ont été prévenus une fois que j'ai été admise à l'hôpital, où c'est ma sœur, je crois, qui les prévient. C'est ma sœur qui les prévient, me semble-t-il. Parce que, ouais, j'aime pas inquiéter. J'aime pas inquiéter. C'est un peu le problème de ma famille aussi. Donc voilà, je suis seule à l'hôpital. Donc on vient me chercher. Donc on me fait d'abord un scanner du cerveau. Et on ne trouve rien. Donc pareil, je vis un moment assez difficile hein, quand on te met dans une espèce de... Voilà, dans cette machine-là qui fait du bruit, qui rentre et qui sort le corps. Et puis on est là, oppressé dans ce truc. Donc bref, c'est quelque chose déjà qui est très difficile à vivre. Ils ne trouvent rien. Et là, donc, ils me disent, écoutez, on va vous faire une ponction lombaire. Parce qu'ils pensent à la méningite. Le truc, c'est qu'ils n'étaient pas sûrs de la méningite parce qu'en fait, je n'avais pas tous les symptômes. A priori, la méningite, on a des petits boutons et des petits trucs sur le corps, chose que je n'avais pas, en fait. J'avais vraiment juste ce mal de tête affreux. Enfin, ce n'était même pas un mal de tête parce que ça va bien au-delà d'un mal de tête, d'une migraine et tout ce que vous voulez. Et le corps très courbaturé. C'est-à-dire que j'arrivais même presque plus à bouger, tellement c'était une courbature fois 150 000. Je ne pouvais plus tourner la tête, tout ça. Donc, j'avais que ces symptômes-là. J'avais pas les petits boutons sur le corps. Et là, ils me disent, bon, on va vous faire une ponction lombaire. Peut-être que vous avez une méningite, mais c'est sûrement une méningite virale parce qu'une bactérienne, vous seriez déjà dans le coma ou vous seriez déjà parti. Puisqu'il faut savoir qu'une méningite à méningocoque, comme j'ai eu, qui est une méningite bactérienne, déjà, c'est très rare que les adultes l'attrapent. Hein. En général, c'est plus quand on est enfant. On peut mourir ou tomber dans le coma dans les 24 à 48 heures. Donc moi, j'ai été prise en charge 72 heures après mes symptômes. Donc ils me font une ponction lombaire. Je vous avoue qu'on m'a demandé, cette ponction lombaire, est-ce que ça fait mal? Je n'ai rien senti. Je n'ai rien senti parce que je souffrais tellement, en fait, que je pense qu'on aurait pu me faire n'importe quoi sur le corps. Je ne sentais rien. Je ne sentais rien. Donc là, ils me font la ponction lombaire. Et là, alerte rouge, Amandine, as-tu une méningite méningocoque? Et là, ils me disent, waouh, ok, c'est parti, on la met dans une chambre en quarantaine, morphine, tout tralala. Là, on comprend que je souffre vraiment très beaucoup. Et puis surtout, on me demande avec qui j'ai connecté toutes ces dernières semaines, enfin la dernière semaine, puisqu'il y a une semaine d'incubation, si je ne dis pas de conneries, pour une méningite, et que toutes les personnes que j'ai côtoyées doivent faire un traitement. Donc, il faut rappeler toutes les personnes qui étaient en teuf à la maison pour qu'ils puissent faire un traitement au cas où. Dieu merci, personne n'a eu de méningite derrière moi puisque ça peut être évidemment très contagieux. Donc, je suis mise en quarantaine. Joie, bonheur. Quarantaine, morphine, non, pas homéopathie. Merde, j'ai plus le mot qui me vient. Ah! Mince. Comment alors? Avec mince. Antibiotiques, voilà. Oh là là, il était compliqué à venir celui-là. Voilà, sous antibiotiques, tout ça. Et donc là, on me dit que je vais rester, voilà, déjà minimum une semaine en quarantaine à l'hôpital. Donc, grand moment de solitude, n'est-ce pas? Mais je souffrais tellement sur les débuts. De toute façon, on mettait la morphine. À chaque fois, je disais plus, 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 parce que ça ne me soulageait pas. Donc, je suis restée à peu près quand même, je pense, 2, 3 jours à moitié. À moitié coma, à moitié, enfin voilà, bref, à moitié là, pas là. Et quand j'ai retrouvé un petit peu mes esprits, le médecin est venu me voir et m'a dit, dis donc, vous êtes sacrément résistante parce que, ouais, parce que voilà, normalement, 24-48 heures, on meurt ou on tombe dans le coma et vous êtes resté assez longtemps, donc vous êtes sacrément costaud, quoi. Donc j'ai fait, ok. En fait, je ne me rendais pas compte de la gravité de ce que j'avais eu. Je ne me rendais pas compte du tout de tout ça. Moi, quand on m'a dit méningite, sur le coup, j'étais tellement mal. Tout ce que j'avais envie, c'était d'être soulagée. Je ne savais pas que ça pouvait être mortel. C'est pas une maladie dont j'ai forcément entendu parler énormément. Aujourd'hui, on voit des pubs à la télé hein, pour la méningite méningocoque. Mais voilà, j'avais pas conscience de tout ça. Et quand il m'a dit ça, j'ai fait, ah ouais, ok, je comprends. En fait, quand moi, je me sentais que j'étais en train de mourir, en fait, j'étais vraiment en train de mourir. J'étais pas folle. J'étais pas folle. Donc, j'ai pas fait de cas de mort imminente, etc. Mais j'ai été proche de tout ça. Je pense que ce cerveau qui se comprime, c'est horrible, quoi. Et pendant tout mon séjour en quarantaine, j'ai eu très peu de visites. Ça m'a vraiment permis de réfléchir quand on est seul. Je suis restée quasiment 2 semaines à l'hôpital. Ça permet de réfléchir, je peux vous le dire. J'ai perdu beaucoup de poids. J'ai mis beaucoup de temps à me remettre physiquement. Il y a très peu de personnes qui sont venues me voir. Donc mes parents qui avaient déménagé, bon, ma sœur l'avait dit, maintenant c'est bon, elle est sortie d'affaires, donc vous déplacez pas, c'est bon, elle est entre de bonnes mains et c'est ok. Il y a ma sœur qui est passée, évidemment. Ma sœur sans qui peut-être je n'aurais jamais eu personne qui serait venu me récupérer pour cette méningite. Mon frère. J'ai la maman de mon ex-copain qui est passée aussi me voir. Et mon ex-copain qui est passé une fois, mais après qui n'est pas repassé. Parce qu'il faut savoir que le déménagement était prévu le week-end d'après la teuf. Donc c'est-à-dire que quand je suis rentrée à l'hôpital, j'habitais à Cergy. Quand je suis sortie de l'hôpital, j'habitais au Lila. Donc c'est-à-dire que mon ex s'est tapé le déménagement Cergy-Lila avec un super pote à moi, Julien, qui va se reconnaître. Julien qui est aussi venu me récupérer à la sortie de l'hôpital pour me ramener chez moi. Julien qui a été très présent et qui a été d'une aide précieuse pour moi, pour nous, pendant ce moment-là. Parce que c'était quand même pas facile aussi pour mon ex-conjoint hein, de vivre tout ça. Mais ouais, j'ai pu vraiment faire le tri et j'ai pu vraiment aussi me rendre compte que, allez, Amandine, à un moment donné, il faut que tu arrêtes de penser qu'aux autres. Le médecin m'a donné un conseil de médecin. Bon, déjà, il m'a dit, voilà, vous auriez pu choper n'importe quoi d'autre, une bronchite ou autre, mais vous étiez tellement fatiguée que vous avez chopé une méningite. Donc, comme je vous l'ai dit au début, voilà, j'étais très occupée entre mon boulot de styliste, Monster Energy, le déménagement. Je préparais tout toute seule pour le déménagement, les cartons. Et je disais à mon ex, à mon ami, je vais dire à mon ami, hein, parce que voilà, je lui disais à mon ami, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide. Et je n'avais pas cette aide. Donc c'était trop aussi pour moi. Et après, j'ai appris, enfin, on m'a fait lire, si vous êtes un petit peu adepte à ça, le livre des maladies. Donc aujourd'hui j'en ai un avec moi, mais à l'époque je n'en avais pas et mon ami Manu, on a regardé ce que signifiait la méningite et ça a été très troublant pour moi. La méningite, donc voilà, ça vient compresser le cerveau, le fait de vouloir taire un petit peu ses pensées. Comme je vous l'ai dit, je n'avais pas envie d'aller faire cette colocation avec mon ami qui était mon ex et je n'osais pas lui dire, enfin, sur le coup, je lui avais dit, mais j'ai cédé, en fait. J'ai cédé, je n'ai pas écouté mes besoins, je n'ai pas supposé mes limites. Et du coup, j'ai accepté quelque chose que je n'avais pas envie d'accepter au fond. Donc, c'est comme si mon corps préférait mourir plutôt que de faire quelque chose que je n'avais pas envie de faire. Ce qui est terrible. Et voilà, taire ses pensées. Voilà, je n'écoutais pas mon cœur, en fait. J'écoutais pas mon cœur. Donc tout ça a pris tout son sens. Inconsciemment, je pense que je l'ai un peu compris. Déjà, j'ai pu faire le tri sur beaucoup de personnes quand j'étais à l'hôpital. Autant même il y en a qui ne se sont pas déplacés pour me voir, mais qui ont été d'une grande présence et d'un grand soutien. J'ai reçu beaucoup de mots qui ont été incroyables et ça m'a beaucoup aidé. Des personnes de qui j'ai été déçue. Des personnes pour qui j'avais vraiment été présente et j'ai vraiment été là et qui n'ont pas du tout été là pour moi à ce moment-là. Donc, je peux vous dire que ça pique beaucoup. Voilà, ça m'a permis de comprendre tout ça. Et ça a déjà été un premier éveil pour moi. Donc, sur le coup, évidemment, c'est des situations et des moments qui sont très durs à vivre. Surtout que J'ai été beaucoup seule en quarantaine, donc j'ai été beaucoup en introspection sur moi-même, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup vu les choses et ça m'a fait beaucoup de bien. Et aujourd'hui, je dis vraiment merci la vie de m'avoir amené cette méningite parce que ça m'a vraiment fait prendre conscience de beaucoup de choses. Des fois, on se tape des coups durs comme ça, que ce soit des maladies, des pertes, enfin voilà, ça nous fait vraiment avancer et évoluer. Et je m'écoutais pas en fait, je m'écoutais pas. Et là, la vie, elle est venue me dire, putain de bordel de merde, Amandine, écoute ton cœur, arrête de ne pas oser, arrête de ne pas parler. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, déjà pour moi, ça a été une grande décision de pouvoir me dire, aujourd'hui, je sais dire non, je peux dire non. Voilà, et pas oui à tout, et à me forcer à faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Donc ça, déjà pour moi, ça a été un pas énorme. Savoir dire non, c'est pas simple. On est bien d'accord. Et toutes ces dernières années, j'ai encore travaillé dessus parce qu'après, il y a dire non, mais il y a dire non d'une certaine façon pour que l'autre personne aussi puisse comprendre pourquoi je dis non. Je dis pas juste non parce que tu me fais chier ou parce que, voilà, je dis non parce que, voilà, selon mes besoins et les limites que moi j'ai, que je me mets, ça ne peut pas être ça ne peut pas être cohérent, en corrélation et tout ça. Il faut que la personne en face, elle puisse comprendre, savoir dire non de la bonne façon. Donc voilà, ça m'a appris à dire non, tout ça, et surtout à me reconnecter à moi. Parce que pareil, j'étais partie dans le milieu du travail, et voilà, le stylisme et machin, et j'étais partout, et puis j'aime travailler, moi j'aime travailler, tout ce que je fais, j'aime. Donc des fois, je suis trop dans le travail et je m'oublie en fait. Et là, c'est pareil, je me suis oubliée complètement, je pensais toujours aux autres, à rendre service aux autres, Amandine la bonne patte, Amandine elle est gentille, Amandine elle est tout ça. Et à un moment donné, je me suis dit, merde, faut que je pense à moi. Donc voilà, cette méningite, ça a été vraiment pour moi un coup de fouet, une grosse claque dans la gueule, mais qui m'a vraiment fait du bien. Donc je suis sortie de l'hôpital, c'était pas simple, j'étais très fatiguée, je suis arrivée dans cet appartement que je ne connaissais pas, qui était à moitié installé, puisque mon ami avait pas trop fait d'installation. Moi on avait une chambre, chacun notre chambre, mais ben moi mon lit n'était pas encore monté. Donc je me reposais dans sa chambre, il n'y en avait pas de canapé, enfin bon bref, c'était la misère quoi. J'avais encore très peu d'appétit, j'avais besoin de beaucoup dormir, mais il fallait aussi beaucoup que je me repose. Bon, est-ce que Amandine, elle s'est encore écoutée à ce moment-là? Pas vraiment. Amandine, eh ben, du coup, elle ne pouvait pas vivre dans un appartement rempli de cartons. Donc, j'ai tout rangé. Voilà. J'ai déballé tous les cartons. Donc, je déballais mes cartons, je faisais une sieste. Je déballais mes cartons, je faisais une sieste. Mais j'avais besoin de me sentir bien parce que je ne me sentais pas bien, je ne me sentais pas chez moi dans cet environnement. Donc, c'est terrible de partir d'un endroit dans lequel on n'a pas dit au revoir, dans lequel je me sentais bien, dans cet appartement à Cergy qui était grand, qui était spacieux, qui était lumineux, tout ça. Et puis boum, j'arrive, ouais, ok, chez moi, mais je ne me suis pas encore approprié le lieu et j'arrive, je suis pas bien, je suis malade, j'ai pas encore mon lit, j'ai pas encore tout ça. Enfin bref, c'était pas terrible. Donc j'avais envie d'installer mon petit cocon à moi. Donc j'ai passé plusieurs temps à faire ça, je me suis quand même reposée, évidemment. À partir de ce moment-là, j'ai très besoin, j'arrive pas à parler, j'ai vraiment besoin de faire des siestes. Voilà, pour moi maintenant, c'est primordial de faire des siestes, de me prendre un petit moment par jour où je me pose 20 minutes, peut-être parfois plus si je veux, mais déjà au moins ma sieste de 20 minutes, où je médite, où je fais ma danse intuitive, où je fais ma yatra kundalini activation. Mais aujourd'hui, je sais que j'ai vraiment besoin de ces temps-là pour moi, pour fou, souffler, revenir à moi et pouvoir gérer ma journée du mieux que je peux, surtout des fois quand on a des journées compliquées, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, c'était un moment particulier. Donc voilà, déjà il y a cette compréhension de savoir dire non. Et puis j'ai aussi cette compréhension où je me dis, allez Amandine, il faut que tu reprennes du temps pour toi. Donc quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de danse. J'ai fait de la danse moderne jazz pendant à peu près 20 ans de mes 7 ans. À partir de mes 7 ans, et puis j'avais arrêté, puisque pareil, le monde du travail, etc., etc. Hein. C'est fou comme on est conditionné, c'est fou comme on nous met dans un moule, c'est fou comme on veut qu'on suive comme des moutons, et tout ce qu'on peut écouter, oui, il faut travailler, 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 il faut travailler. Moi, je me suis vraiment laissée embarquer par ça. Autant, j'ai toujours fait ce que je voulais faire, je me suis toujours battue pour mes passions, et je savais que je devais travailler en harmonie avec mon cœur et mes passions, mais autant pour le reste, parfois, c'était un peu difficile. Et puis voilà, le fait de dire oui à tout, eh ben, je m'écoutais pas, quoi. Donc là, j'avais vraiment besoin de me retrouver et de reprendre une activité physique pour moi, de me reprendre en main. Donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai décidé de faire de la pole dance. Je suis sortie de l'hôpital fin mars. J'ai commencé la pole dance au mois de juillet. Donc évidemment, ça m'est venu pendant ces mois-là. J'ai vu ma meilleure amie Apolline qui met un post sur Facebook en parlant de son cours de pole dance. Et donc là, je vois ça et ça me fait un tilt direct. Et là, je lui dis, ah ouais, et tout, tu fais de la pole dance, j'aimerais vraiment essayer. Pour moi, je me suis dit, bah, tiens, c'est cool, ça allie la danse que j'ai fait et la force. Parce que j'ai toujours eu du muscle. Je suis née musclée. Voilà. Quand j'étais petite, voilà, on me demandait toujours si je faisais de l'athlétisme, si je faisais ci, si je faisais ça. J'avais encore un peu de gymnaste. Et je me suis dit, tiens, c'est parfait. Moi, j'y voyais pas ce côté striptease, en fait. Ni ce côté sensuel, etc. Je voyais vraiment ce côté sport. Bizarrement, moi, on m'a dit pole dance. J'ai tout de suite vu, pardon, ce côté sport. Donc là, je demande à mon amie, à Pauline, où est-ce qu'elle en fait? Donc là, elle me parle du Pink Paradise. À l'époque, il n'existe pas grand-chose en pole dance, hein, en 2011. Et donc, je me renseigne. Et donc là, ça me dit que la prochaine séance, parce que autant maintenant, dans un studio de pole dance, vous pouvez vous inscrire n'importe quand dans l'année, il n'y a pas de problème. Mais là, en fait, il y avait des sessions de 10 cours, je crois, par niveau. La nouvelle session débutante commençait du coup au mois de juillet pour 10 cours. Et c'est là où je me suis inscrite sur ces premières séances en pole dance pour aller suivre mes premiers cours. Et quand on a une maladie aussi comme ça, où on a failli perdre la vie, hein, on relativise aussi beaucoup plus les choses. Et moi, je me suis dit, Amandine, t'as qu'une vie et tu peux mourir du jour au lendemain. Donc à l'époque, j'étais encore styliste, je n'avais plus ma marque de vêtements, mais je travaillais pour une autre marque qui avait été des clients de ma marque. Je travaillais pour cette marque, pour moi, ça ne se passait pas forcément très bien, j'étais un peu le vilain petit canard de la société, voilà, on me rabaissait un petit peu tout le temps, donc j'étais pas en harmonie avec ça. La boîte a fermé, enfin eux, après, ils avaient leur boutique qui continuait d'exister, mais la marque en elle-même a cessé au mois de décembre, je crois 2011, entre décembre et janvier 2011, donc peu de temps après ma méningite. Donc pour moi, c'était un grand soulagement de me retrouver au chômage. J'ai approfondi un petit peu plus la pole dance, c'est-à-dire que bah, j'ai fait mes premières séances au mois de juillet, ensuite il y a eu les vacances, puis j'ai repris en septembre. Et puis j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette discipline. À aucun moment donné, j'ai imaginé être prof, donner des cours, faire des compétitions, tout ça. Non, déjà, c'était pour mon plaisir personnel. Sauf qu'on m'a trouvé douée. On m'a trouvé douée pour la pole dance. Donc, au fur et à mesure, il y a pas mal d'opportunités qui sont venues à moi et que j'ai saisies. Et c'est cette méningite vraiment qui m'a fait prendre conscience en me disant, de toute façon, Amandine, tu peux crever demain. Donc, vas-y, fais ce qui te fait kiffer. Donc, à l'époque, j'étais complètement insouciante. Je n'avais aucune peur de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que j'avais mon chômage qui était là. Donc, je touchais mon salaire et je profitais de la pole dance. Au plus j'ai découvert la pole dance, au plus je me disais, ah ouais, j'aimerais trop vivre de ça, etc. Mais je n'avais aucune idée de quoi, comment. Mais en tout cas, à un moment donné, je me suis posé ça dans ma tête et je me suis dit, ah ouais, j'aimerais trop faire ça dans ma vie. Et c'est vraiment venu au moment où, donc à l'époque, j'étais chez Pole & Dance à Paris, le studio de Laurence Hilsum. Laurence m'avait entre guillemets repéré, m'avait proposé de faire partie d'une troupe avec des danseurs et des pole dancers pour développer un concept de spectacle. Et c'était une super idée, j'étais super honorée de pouvoir participer à ça. Bon, je me sentais la plus nulle de toutes parce que j'étais celle qui avait commencé la pole dance bien après tout le monde, mais on avait fait des tournages, des vidéos, etc. Et à partir de ce moment-là, j'étais là, waouh, mais moi j'aimerais trop vivre comme ça tout le temps. Mais comme je vous dis, je n'avais aucune ambition. Même à ce moment-là, dans ma tête, je ne me disais pas, je vais donner des cours, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, j'ai juste posé cette intention et tout est venu à moi. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis vraiment laissée porter par la vague, par le flot de la vie. Et les opportunités venaient à moi comme ça et je disais oui. Ou je disais non, évidemment, si ça ne me faisait pas plaisir. Mais j'avais l'impression Waouh, de vivre un rêve éveillé. J'étais dans le milieu de la mode où on fait que t'écraser et me rabaisser. On faisait que voilà, m'écraser et me rabaisser. Et j'arrive dans ce milieu de la pole dance où tout d'un coup, ben, je me sens reconnue. On me trouve du talent. Alors moi, je ne me trouve pas forcément de talent, mais en tout cas, on m'en trouve pour me proposer de faire partie d'une troupe, pour ensuite me proposer de donner des cours, pour ensuite me proposer de donner des workshops, pour ensuite me proposer d'aller faire une compétition. Marion Cromme qui me dit, tiens, il y a une compétition là à Varsovie, viens, viens, c'est pour toi, c'est artistique, etc. Ok. Et voilà, c'est comme ça que les choses sont parties en fait. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Et je pense que j'aurais jamais eu ce lâcher prise si j'avais pas eu ma méningite. J'aurais été toujours dans le questionnement, dans le mental, oui, mais si je fais ci, oui, mais si je fais ça, et puis j'ai peur, et puis si ça marche pas et tout, j'en avais rien à foutre si ça marchait ou pas. Moi, j'avais juste envie de kiffer mon moment, mes moments, parce que je savais très bien que je pouvais crever du jour au lendemain, parce que ça venait de m'arriver, parce que bah, tout d'un coup, je me suis tapé une méningite foudroyante et que j'aurais pu crever du jour au lendemain, parce que je peux traverser la rue demain et que je peux me faire foudroyer par une voiture du jour au lendemain. On ne sait pas. Donc, en fait, vivez. Voilà, moi ça a été vraiment cette leçon, c'était de vivre pleinement en fait et de pas m'emmerder avec ces peurs qui sont tellement futiles, ces peurs qu'on nous met dans le cerveau, ces peurs qui viennent de nos parents, de nos grands-parents, qui viennent de la société. On veut nous mettre ces peurs pour nous mettre dans ce cadre, dans ce moule. Soyez comme des bons moutons et des bons citoyens. Allez vous faire foutre, moi j'ai jamais été. Voilà, je suis désolée, hein, si y en a qui sont là-dedans, mais voilà, moi, j'ai jamais voulu suivre la masse, en fait. Jamais, jamais. Ça m'a toujours. J'ai toujours été très réticente à tout ça. J'aime être en communauté, j'aime partager avec les autres, mais j'aime aussi profondément me reconnecter à moi et m'écouter et savoir ce qui est bon pour moi. Et vraiment, la méningite, ça m'a amené tout ça. Donc, oui, aujourd'hui, je suis vraiment en gratitude de tout ce qui est arrivé. Et de cette méningite, parce que sans ça, j'aurais jamais ouvert les yeux. Donc, quand vous avez des parts d'ombre comme ça, quand vous vivez des moments difficiles, faites vraiment confiance que derrière, la lumière, elle va être là et elle va jaillir. Observez-vous, observez les leçons que vous tirez de ces expériences et la beauté qui peut en ressortir vraiment, vraiment derrière. Ça a été incroyable, mes années. Pole dance, autant mes années de mode, j'ai vécu des choses incroyables aussi quand j'ai créé ma marque et j'ai vécu des moments que jamais j'oublierai et que je suis très contente d'avoir vécu parce que ça aussi était mon expérience et aujourd'hui je tire aussi profit de tout ce que j'ai pu faire dans la mode. Mais vraiment, cette expérience en pole dance, ça a été fou. Et ce qui a été fou aussi, c'est que quand par contre j'étais dans la pole, je comprenais pas pourquoi les gens me trouvaient du talent. Je comprenais pas pourquoi à un moment donné tout le monde m'invitait en workshop, etc. Pourtant j'étais là, ok, je me débrouille bien, mais j'ai pas l'impression d'être la meilleure, j'ai pas l'impression d'être la best pole danseuse. Il y a un moment donné, ouais, ça a été moi qui tournais le plus en France où on me demandait partout tout le temps et je comprenais pas pourquoi. Et puis j'ai découvert le human design voilà, je me suis formée après, bien longtemps après, hein, bien, bien longtemps après. Et j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris parce qu'en human design, j'ai un profil 2-4. Donc s'il y en a qui connaissent un peu leur design et que vous avez un profil 2-4, le profil 2-4, c'est un profil, je veux dire, ouais, je suis bien lotie, je ne vais pas mentir, je suis bien lotie. C'est l'ermite opportuniste. Ouais, comme ça fait un peu. Un peu bizarre, oui, je suis ermite opportuniste. Ermite, parce que mon profil 2 est un profil qui aime être seul, qui aime créer seul dans son énergie. Et c'est tout à fait vrai, donc ça, je l'ai bien compris. Voilà, j'aime créer dans mon énergie, j'aime être seul pour créer, etc., etc., mettre les choses en place. Et en fait, donc par exemple, bah, quand je m'entraînais en pole dance, hein, je m'entraînais dans le studio, tatata, je faisais mes trucs. Oui, après j'exposais en postant mes vidéos sur Instagram, mais quand je postais mes vidéos sur Instagram, c'était pas pour chercher quoi que ce soit en fait. Et c'est de là que les gens sont venus à moi. Donc opportuniste, ce qui est ma ligne 4, l'opportunisme, c'est que les gens voient chez moi un talent. Et du coup, ils m'appellent pour extérioriser ce talent. Donc c'est comme ça fonctionne en fait. C'est moi, je travaille pour moi en profondeur. Dans mon petit coin tranquille, je fais ma petite tambouille, et les autres voient chez moi un talent et vont m'appeler extérieurement. Donc en fait, j'ai compris que c'était normal ce qui s'était passé pour moi dans la pôle, que je n'avais pas à culpabiliser de ça, à me poser des questions, à me dire bah pourquoi machin et tout, parce que ouais bah des fois moi je me il y a des choses qui vont bien mais on arrive quand même des fois à s'embrouiller le cerveau et de se dire bah tout simplement c'est normal en fait. C'est normal Amandine, ces énergies-là, elles sont en toi. Tu es comme ça donc accepte que les autres voient chez toi un talent et qu'ils t'appellent pour voilà, extérioriser ce talent, donc pour donner des workshops, etc. etc. Et à ceux qui ont suivi ma carrière de pole dance, vous savez très bien tout ce qui s'est passé. Donc voilà, pour faire un petit peu les liens et les parallèles entre tout. Donc voilà, c'est vraiment top. Et puis là, j'ai eu une idée aussi pour un autre podcast parce qu'il m'est arrivé quelque chose de magnifique hier soir que j'ai vraiment très envie de vous partager, où justement toutes les connexions de toutes mes expériences de vie aujourd'hui, hier soir, il s'est encore passé des choses. Et quand vous travaillez sur vous, quand vous travaillez intérieurement avec les méditations, voilà, les guidances intuitives, moi j'ai beaucoup fait ça ces derniers temps, le yoga, la yatra kundalini activation, ça vient encore renforcer des choses chez moi, ça vient m'aider à être encore plus observatrice de tout ce qui se passe en moi et de vraiment mieux comprendre les choses, de comprendre mes potentiels, mes talents et comment aujourd'hui pouvoir lier tout ça. Mes potentiels, je les ai expérimentés, maintenant je sais ce qu'il y a en moi. Et c'est terrible parce que dans la société, et surtout en France d'ailleurs, hein, vraiment de dire en France, si des fois on a envie un peu de se mettre en avant parce qu'on sait qu'on a un certain potentiel, on vient un peu se faire cracher dessus. Aux États-Unis, c'est un peu différent. On encense, on croit au créateur, etc. Déjà, même quand j'étais dans la mode, tout le monde me disait « Amandine, pars aux États-Unis, pars aux États-Unis. Là-bas, on croit aux personnes et tout. » C'est vrai qu'en France, c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut s'arracher la tête pour que les banques nous prêtent de l'argent, pour des projets. En France, on croit pas aux jeunes, on croit pas aux talents, on croit pas tout ça. Enfin bref, je m'étais aussi bien battue pour tout ça. Et aujourd'hui, j'arrive à accepter que j'ai des potentiels en moi et que je peux les mettre en avant. Et que ce n'est pas une honte de se dire « Ouais, ben moi, je suis douée dans ça, en fait. » Et de l'assumer. « Ouais, je suis douée là-dedans. » Et au final, de ce qui ressort de tout mon enseignement de pole dance, c'est pourquoi j'en suis là aujourd'hui, c'est que, ok, j'ai été bien en pole dance et j'ai fait ce que j'avais à faire, on va dire physiquement. Mais aujourd'hui, ce qui ressortait le plus, c'était vraiment aussi ma personnalité, ce qui accompagnait derrière et ce que je pouvais apporter aux personnes à travers la personne que je suis au final. Comment je pouvais motiver les personnes à travers la personne que je suis et non pas qu'à travers je t'apprends un hook, un step around, un twist and grip ou un deadlift. Tu vois qu'une figure, c'est après ce qui est ressorti, c'est de ce qu'on m'a dit aussi, hein, où j'ai pu faire cette compréhension, évidemment. Donc voilà. Donc voilà un petit peu ce parcours de méningite que vous aviez envie de savoir. Donc pour conclure, j'ai juste envie de vous dire, écoutez-vous. Écoutez votre cœur. Écoutez votre ressenti profond. Parce que on le sait quand c'est comme ça. Vous voyez, quand je voulais pas déménager, je vivais avec mon ex et déménager encore en coloc avec mon ex, je savais au fond de moi que je n'avais pas envie de ça. Et j'ai pas su dire non. J'ai pas su dire non avec bienveillance et amour. Pour qu'ils comprennent, je me suis auto-gâchée toute seule. Je ne remets absolument pas la faute sur lui parce que c'est moi qui ai pris la décision. Il ne m'a aucunement mis la pression, il ne m'a pas mis un couteau sous la gorge, rien du tout. Hein. Je tiens à dire que la relation était saine et qu'à partir du moment où on est devenus amis, on était vraiment amis. Il n'y a jamais eu d'ambiguïté, de choses entre nous. Ça, je le précise si jamais il y a des personnes qui écoutent ce podcast de cette époque parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de questionnements là-dessus. Voilà, il n'y a pas eu de manipulation, il n'y a pas eu tout ça. Hein. C'est juste moi qui n'ai pas su, en fait. Donc, sachez dire non, c'est OK de dire non quand on n'a pas envie, quand on sent que ce n'est pas pour nous. Et vivez vos rêves parce que la vie est courte et que n'importe quoi peut vous tomber sur le coin de la gueule du jour au lendemain quand on ne s'y attend pas. Vous voyez, le samedi soir, je faisais la fête avec tous mes amis, j'étais en joie, j'étais trop bien, etc. Et le lendemain au soir, j'étais en train de mourir. Donc tout peut aller tellement vite. Donc écoutez-vous, tout est en vous. Voilà, au plus j'avance dans mon éveil, dans mon parcours, au plus je me rends compte que tout est là et tout est en moi en fait. Et qu'un petit quelqu'un qui nous prend par la main aussi pour nous amener à tout ça, c'est cool. J'ai toujours eu une tendance à vouloir faire les choses seule, mais aujourd'hui, d'avoir fait des formations, de faire des séances avec les autres, eh ben ça fait du bien. J'aime faire mes pratiques seule, évidemment, mais j'aime aussi connecter avec les autres et ressentir l'énergie des autres. Donc moi, je continue aussi toujours de faire ces séances-là pour moi, avec d'autres personnes en groupe. Solo chez moi, voilà, j'avance et ça me permet vraiment de me connecter profondément. Donc si jamais aussi ça t'intéresse, tu peux aller voir sur mon site www.amandine-ataraxie.com et découvrir mes séances de guidance, la prochaine voyage intérieur et mes séances de Yatra Kundalini qui se passent en ligne et qui se passent en présentiel à Bordeaux. Voilà, n'hésitez pas. Et puis, bien évidemment, je vous proposerai des week-ends, des retraites, des journées bien-être où je vais mélanger tout ça. Et bref, voilà. Voilà. Mais en tout cas, merci de m'avoir encore écouté pendant presque une heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste disponible pour vous répondre. Et j'ai juste envie de vous dire, vivez votre vie à fond. Vivez votre vie à fond. Les peurs, laissez-les de côté. La question à se poser quand vous avez peur, c'est est-ce que je risque ma vie en faisant ça? Si c'est non, tu fonces. Si tu sens que ça vibre dans ton cœur, dans ton ventre, tu fonces. Tu fonces. Voilà, il n'y a qu'une vie et autant la vivre bien. Donc lâchez vos peurs, kiffez votre life et je vous aime putain! Pardon, je me suis un peu excitée. Voilà, prenez soin de vous. Sur ce, à très vite pour un nouveau podcast. Bisous, bisous.